Nous sommes au Hellfest avec le groupe Tungsten. Bonjour.
Bonjour.
Salut.
Vous jouez pas cette année, mais vous êtes là quand même, notamment pour faire la promotion du dernier album. Du coup, ça fait quoi d'être au Hellfest en tant que festivalier?
Alors bah moi c'est toujours comme ça que je l'ai fait. Mais après on est voilà, on a la chance d'être dans l'espace presse, d'avoir donc accès à l'espace VIP, donc c'est super. Et après on était quand même le 19 juin, on était au off. Donc on a joué sur le parking du Leclerc. Donc c'était aussi sympa, c'était une expérience assez marrante, ouais, intense, 30 minutes.
Oui, c'était notre premier pas en direction du Hellfest. Et moi c'est mon tout premier Hellfest, alors forcément je suis très contente d'être là. Voilà.
Vous avez profité un peu hier?
Alors on est en fait on jouait le 19, donc on est reparti ramener le matériel et on est revenu hier soir, on est arrivé à 23h, un truc comme ça, 23h30. Alors on est quand même allé du coup au Metal Corner un petit peu.
Ouais.
Et on a dû repartir vers 1h, quelque chose comme ça. Donc on a profité, on a eu le temps de prendre quand même quelques bières, de rencontrer un petit peu de potes qui étaient là. Donc ouais, c'était cool.
Oui, on le fait un peu en speed comme ça, ce festival cette année, mais ça permet d'avoir un petit aperçu. Et puis de toute façon, toute l'ambiance, elle est énorme. Donc on la ressent très vite.
On est là pour parler de votre dernier album et deuxième album, The Lost Manuscript. Est-ce qu'on peut commencer par l'histoire? Le concept derrière cet album, puisque vous êtes un groupe de métal, d'accord, mais il y a quand même quelque chose derrière, c'est pas juste du métal.
Alors cet album, il est né de l'esthétique que nous avons essayé de créer au cours de nos premiers concerts et du premier album, qui a été cette esthétique post-apocalyptique steampunk. Et c'est vrai que Cédric, quand il a proposé l'écriture du deuxième album, s'est dit bah tiens, on va essayer de s'inspirer donc de l'esthétique, donc de l'aspect voilà ère industrielle, voilà des années 1850, pour aller chercher une histoire qui était déjà finalement écrite, puisque on s'est basé sur l'histoire du monstre de Frankenstein. Après, l'écriture est venue très vite, voilà, il a fait un scénario, il a écrit quelques chansons et paf, voilà. Ouais, c'est vrai qu'on a scénarisé un petit peu ensemble. Et très vite, en fait, se donner un fil rouge très précis, ça aide énormément pour la création, pour l'écriture. Donc c'était chouette. Enfin, contrairement à ce qu'on pourrait croire que ça donne un carcan, bah, en fait, au contraire, non, ça permet vraiment d'avoir de faciliter la création.
Ouais, c'est beaucoup plus dur en fait de trouver un thème à chaque chanson quand on n'a pas de fil conducteur. Alors que là, bon, voilà, c'était, on n'avait pas, il n'y a pas besoin de chercher de l'originalité pour avoir de l'originalité. On avait une histoire à raconter. Plus simple.
Et ce thème de Frankenstein, comme il a été développé de maintes et maintes façons, du coup ça permet de se rassurer, de se dire moi aussi je peux avoir quelque chose de personnel, puisqu'on a des versions très classiques qui respectent bien le texte de Mary Shelley et d'autres qui sont, enfin ça devrait même pas exister tellement c'est même plus de la transformation, c'est juste, il n'y a rien à voir. Du coup ça vous a permis de mettre votre patte du coup en ayant ce fil, alors fil rouge, mais qui peut être aussi un fil de sécurité.
Alors on l'a pas vu comme un fil de sécurité, en fait on a vraiment vu plus le côté voilà, résurrection, le truc un petit peu sombre, le truc qui on sait que ça va pas bien finir quoi. Et donc c'était un petit peu plus pour cet aspect-là. Et puis après nous on a brodé autour, on a vraiment redécrit notre truc avec des personnages qu'on a un petit peu inventés. Voilà.
C'est une interprétation très libre, voilà. En fait. Je crois même que on n'était pas forcément conscient de cette histoire de Frankenstein, c'est l'ambiance, en fait, l'esprit steampunk a apporté ça. Et en fait, on s'est dit, bah tiens, oui, ça colle bien, on a cette espèce de personnage qui se transforme un peu en Jacques l'Éventreur, alors que malgré lui, pour recréer son monstre, et évidemment, bon, bah, ça se finit mal. Mais c'est vrai que c'est un mélange de toutes ces esthétiques, on va dire, littéraires de l'époque qui est venu alimenter cette histoire, en fait.
Du coup, vous êtes allé relire des choses, vous avez fait des recherches sur, je sais pas, des gens qui ont découpé des gens, ou, enfin, genre ambiance recherche Psycho Killer ou des choses comme ça.
Non, très peu, justement, pour essayer de pas forcément aller s'influencer de quelque chose qui existait déjà. Donc, on avait le thème, et puis après, on a brodé de notre côté sans justement trop se documenter là-dessus. Ouais. On voulait pas raconter, c'est une fiction, quoi. C'est vraiment une fiction.
C'est votre imaginaire, voilà, qu'on retrouve à 100%, et donc ce deuxième album, c'est du tungstène voilà, pur et dur.
C'est ça. Exactement, c'est ça, ouais.
Sur l'ambiance que vous vouliez donner à cet album-là, est-ce que vous, pas forcément à la composition, mais au moins à l'enregistrement, est-ce que vous étiez mis dans une atmosphère spéciale?
Alors en fait, l'enregistrement a été préparé très longtemps à l'avance, donc on n'était pas en tenue, ou en tout cas on s'est pas enfermé dans une grotte pour enregistrer avec des rats crevés partout. Mais ouais. ça aurait pu.
C'est vrai qu'il y a des gens qui travaillent comme ça. Non, c'est vrai qu'on on est assez neutre finalement dans notre vie du quotidien. Et du coup, pour la composition, c'est vrai que c'était assez. Enfin, ouais, il n'y a pas eu de mise en condition particulière.
En fait, il y a eu 6 mois d'arrangement sur l'album, donc ça a été un petit peu la mise en condition. En fait, on a fait une pré-prod. On a mis 6 mois à la faire, et à partir de là, on a enregistré. On savait exactement ce qu'on voulait faire, et c'était juste rejouer de manière plus intense qu'il y avait sur la pré-prod.
Vous avez un souvenir particulier de cette période d'enregistrement? Quelque chose qui vous a fait évoluer dans votre vie de musicien?
Peut-être le retour de Madeleine a été assez rock'n'roll. Ouais. Parce qu'en fait, du coup, t'es revenu un petit peu plus tôt que ce qui avait été prévu. Et donc on n'était pas prêt du tout, donc il a fallu qu'on speed l'enregistrement de la batterie, qu'on mette au moins une piste de guitare. Et puis ça a été une semaine qui était ultra chargée parce qu'il y a eu, il a fallu enregistrer sa voix,
tourner le clip,
parce qu'elle est partie en voyage pendant en fait à peu près un an. Donc on a tourné le clip et les photos. Enfin, il fallait pas qu'on se foire, quoi. On avait une semaine et demie où il fallait pas qu'elle tombe malade. Il y avait plein de trucs qui venaient un peu jouer de tous les côtés. Et ça a été mis, ça a bien marché, on a réussi.
C'était peut-être un petit peu stressant et intense, mais du coup, ça nous a imposé des deadlines très précises et on a su les respecter. Et là-dessus, je pense qu'on peut être fiers.
Ouais.
Parce que sinon, en dehors de ça, l'emploi du temps était assez mouvant. Et là, au moins, bam, ça a imposé des choses et je pense que ça a grandement accéléré la finalisation de l'album, de l'enregistrement en tout cas.
Pour rentrer un petit peu plus dans l'album, alors je sais qu'il y a un concept, etc. Pour autant, sans parler de chaque morceau, je vais vous proposer une sorte de portrait chinois sur certains titres. C'est-à-dire que si Wandering Around the World était un animal, ce serait quel animal?
Je penserais à un singe. Ouais, mais c'est plus pour l'esthétique un peu. Elle me fait beaucoup penser à Indiana Jones. Et donc, du coup, voilà, je vois les singes.
Ouais, je valide aussi. Ouais.
Si Let Me Live était une pierre, ce serait quel genre de pierre?
On va dire du tungstène. En tout cas, un métal, on va dire du tungstène. Ouais.
Parce qu'en plus, elle a ce côté bleuté, effectivement. Pour moi, c'est une chanson bleue. Je suis très coloristique en termes de musique. Et c'est carrément une chanson bleue, Let Me Live.
Et si They're Coming était un vêtement, ce serait quel genre de vêtement?
Waouh! Attends, je me remets dans They're Coming. Des bottes!
Je sais pas, un truc qui permet de sauter, ouais.
Non, en fait, non, plus, parce qu'en fait, They're Coming, moi, je vois ces capuchons de Klu Klux Klan, c'est abominable. Donc peut-être plus un capuchon ou un truc comme ça, une cagoule.
Ouais, parce que ouais, c'est ça, ouais, en fait, ça raconte l'histoire de... Enfin, c'est en gros une sorte de confrérie qui essaye de récupérer le manuscrit, et donc qui va venir chercher le manuscrit au gars qui essaye de ressusciter sa femme. Et donc c'est vrai qu'il y a un côté un petit peu secte, ou je sais pas, on sait pas trop, mais ouais, on laisse un peu le... voilà.
Je sais pas s'ils sont méchants ou gentils en plus. Hein.
Ouais.
En réalité, on se dit qu'ils doivent être gentils, ils protègent quand même ce manuscrit.
Ouais, parce qu'il est pas top, le manuscrit.
Ouais, faut pas qu'il tombe entre de mauvaises mains.
Est-ce que vous avez pu avoir du retour du public sur l'album, parce qu'il est sorti il y a pas très longtemps, mais maintenant avec les réseaux sociaux, tout le monde peut vous parler tout le temps?
Oui, tout à fait. On a eu quelques retours. On a fait la release, donc on a fait ce premier concert au Vauban, qui nous a permis de présenter l'album à notre public. Et globalement, tous les gens qui l'ont reçu en avance via la campagne de crowdfunding Ulule, ils nous ont fait leur petit retour. La majorité, je crois, enfin en tout cas, tous ceux qui nous ont fait leur retour ont adoré. Ouais. Je pense très honnêtement que ceux qui aiment pas, en fait, ils s'en foutent et donc ils le disent pas. Et donc globalement, on a eu des très bons retours.
Et les retours qu'on a sont très bons. Ouais. On est contents. Et puis même sur la prod, du coup, les gens ont aussi apprécié la prod. Ça, c'était un point assez important pour nous parce qu'on le faisait nous-mêmes aussi. Donc c'était on est très contents pour l'instant. Ouais.
Un mot, parce qu'il faut aussi en passer par là, sur la pochette. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à cette représentation-là? Et est-ce que c'est la main de quelqu'un?
Ouais. Ça ressemble à ma main, ouais. C'est un malheureux concours de circonstances, on va dire. Non, un heureux concours de circonstances. En fait, voilà, on commençait à discuter pochette, et puis j'avais fait un premier montage photo avec ma main au-dessus d'un livre. Et puis on a étoffé le truc en disant ah, il faut de la couleur bleue, il faut des flammes, il faut du machin. Et puis voilà comment on en est arrivé là. C'est aussi simple que ça. Après voilà, c'est tout simple, les objets de torture, j'ai pris ce que j'avais à la maison, ma femme étant dentiste, j'avais des
voilà, j'avais des pinces, c'est ça, j'avais dedans.
Donc j'ai fait des photos et puis c'est un montage voilà avec ce qu'il y avait voilà.
Ça a été assez simple, bah, sachant que The Lost Manuscript c'était la chanson, une des premières chansons qui a été écrite, ouais. Et tout a découlé un peu de ça en fait.
Ça a mis l'ambiance en fait, ouais.
Ça a posé les choses.
Il y a un premier clip qui est déjà sorti, vous avez des projets pour en faire un deuxième ou...
Absolument, ce sera un triptyque. Donc l'idée avec ces trois clips, ce sera de résumer l'album en se servant de trois chansons, mais de résumer l'entièreté de l'album. Donc par exemple, le Wandering Around the World, qui est le premier clip, il résume finalement le début de l'histoire jusqu'à Wandering Around the World. Et après, on va découper à peu près comme ça.
On va scénariser en fait, les clips vont vraiment raconter l'histoire.
Des dates de concert à annoncer ?
Alors ouais, donc y a demain, alors je sais pas quand ce sera diffusé, donc c'est déjà passé probablement. Donc il y avait le 22 juin avec les Ramoneurs de Menhir à Guingamp, le 29 juin à Plouvorne à côté de Morlaix, le 5 juillet plus proche de Brest à l'Ampol Guimillot sur une grosse scène aussi extérieure, et le 6 juillet sur Brest, en extérieur aussi. Donc on a pas mal de belles scènes à venir là.
Ouais, ça c'est notre petit marathon de début d'été. Puis après, on reviendra en août. Voilà, mais inutile d'annoncer les dates tout de suite, ouais. Parce que c'est trop loin.
Je vous propose d'emprunter un chemin, d'emprunter une voie. C'est-à-dire que vous pouvez partir soit deuxième étoile à droite et tout droit jusqu'au matin, plutôt partir sur le chemin de briques jaunes, monter la Stairway to Heaven, ou plutôt descendre sur la Highway to Hell, ou partir vers l'infini et au-delà. Vous prenez quoi ?
Ah, on est au Hellfest. Hein.
Ah, on est au Hellfest.
Donc, Highway to Hell.
Ah, moi j'aurais pris Stairway to Heaven, mais parce qu'en fait j'aimais bien ton image, mais c'est vraiment très visuel,
oui,
c'est par rapport au visuel, effectivement. Même si Stairway to Heaven me parle, enfin, c'est pas une chanson que. Enfin, bon, voilà, on l'a tous entendu, réentendu, on n'en peut plus, bref. Mais ouais, allez, on va prendre Highway to Hell.
Ouais, pour le côté Hellfest.
Pour le côté Hellfest, ouais.
On a passé pas mal de temps sur l'autoroute là.
On n'arrête pas là, ça, on a, notre bilan carbone est épouvantable, on est désolé.
Quelque chose que vous souhaiteriez ajouter ?
Eh ben, un grand merci en tout cas d'avoir pris le temps de faire cette interview. Et puis merci, un énorme merci aux gens qui nous suivent. L'album est disponible sur toutes les plateformes en ligne. Il y a les clips, n'hésitez pas à les regarder, à suivre la page Facebook. Et puis voilà, à bientôt en concert. Hein.
Voilà. Et merci pour ce format d'interview qui est assez atypique pour nous. C'est très intéressant. Et puis voilà, venez nous voir en concert. On a plein de choses à vous offrir et venez nous parler après.
Merci à vous.